Télétour du monde.
Le Télétour du monde.
Salut le Télétour du monde.
Le Télétour du monde.
Le Télétour du monde.
Bienvenue au Télétour du monde. Entre bases de recherche et agences de voyage, ce dispositif invite à parcourir le monde par téléphone ou bien à pied, à la recherche de points de vue, d'histoire et de voix.
Est-ce que m'entend ? Ah, m'entend ! Bienvenue au Télétour du monde. C'est le 7-2 qui va durer une heure. Et je vais vous parler d'abord des règles du jeu. Pour jouer, il vous faut un téléphone, un répertoire de numéros, une feuille et un stylo. 1. Installez-vous confortablement. 2. Appelez un numéro, d'une proche, d'un inconnu, du répertoire ou totalement au hasard. 3. Demandez à votre interlocutrice ou interlocuteur « Bonjour, tu peux me décrire ce que tu vois par ta fenêtre ?»« C'est pas le moment !» Bon, si c'est pas le moment, raccrochez. Si l'autre est partant ou partante, c'est super, laissez-vous aller. Alors, par ma fenêtre, je vois des rues, blablabla. Prenez des notes ou faites un dessin pour garder un souvenir. En direct du centre téléphonique du Télétour du Monde, est-ce qu'on pourrait avoir le répertoire du centre d'appel téléphonique du Télétour du Monde ? Alors, choisissons un nom.
Donc, on a une liste de numéros qui ont été déposés par les visiteurs et les visiteuses de l'expo. Il y a une personne en Pologne, Eva, de la part de Chloé.
On va essayer de l'appeler. Des joies du live. Mais voilà, en direct de notre centre d'appel téléphonique du Télétour du Monde, c'est une expérience proposée du 22 septembre au 24 octobre au FACT, Centre culturel du Colombier, et imaginée par Diane Rabreau. Le Télétour du Monde, c'est des performances, ateliers, rencontres, une exposition, de la pizza, de la radio, du camping, des jeux, du dessin, de l'exploration, de l'improvisation. Tout ça autour de ce que vous pouvez voir à travers votre fenêtre. Peut-être que le temps de trouver une personne qui répondra depuis le centre d'appel téléphonique du Télétour du Monde, je vous propose d'écouter une petite interlude. Ça parle de repos et surtout de repos dans la digestion du processus créatif. Et on parlera justement de ce que c'est, comment est-ce que tu crées, Diane, après ça. Petite pause.
Hydratez-vous à la fontaine ou affalez-vous dans nos canapés. Mettez-vous à l'aise. C'est ici que l'équipe du Télétour du Monde se repose. C'est une étape très importante dans le processus. Après avoir parcouru le monde par téléphone ou bien à pied, sur le terrain ou dans ses rêves, après avoir vécu plusieurs rencontres, projections, traversé des émotions souvent fortes, on peut se sentir fatigué. Ouais. Pendant que les émotions redescendent, nos exploratrices se reposent donc et écrivent parfois leurs pensées ou leurs rêves dans un journal de bord.
De retour au fact avec Diane. Diane, du coup, comment tu crées, toi ? Et c'est quoi, à quelle place prend le repos dans tout ton processus ?
La tenue d'un journal de bord, c'est quelque chose d'important que je fais régulièrement depuis plusieurs années. C'est des temps que tu octroies à la mise à plat de ce que tu as pu vivre chercher les mots, te replonger dans ce que tu as vécu pendant la journée et les mettre sur papier, et ça, c'est une manière de garder des traces et ça a un peu le même rôle que les boîtes noires qui gardent des souvenirs de ce que tu vis, mais ça aide aussi à, en tout cas dans mon cas, à faire le récit ensuite et à transmettre ce que tu as pu vivre ou rencontrer. Donc ça, c'est une phase de digestion importante.
Tu m'avais vachement parlé de tes rêves, toi aussi, que tu étais une personne qui, quand tout a, aimait bien parler de ses rêves, en tout cas revenir vers ses rêves.
L'écriture, pareil, des rêves le matin, c'est quelque chose que je fais depuis hyper longtemps. Ça va faire 10 ans et parfois c'est juste un mot, parfois c'est juste une phrase, parfois c'est des pages et des pages. Mais ouais, c'est un truc assez, c'est la rigueur du matin, mais je prends beaucoup plaisir à me replonger là-dedans. Alors ça a des traces écrites dans le journal, mais aussi dessinées et audio. J'ai mon dictaphone qui est sur l'oreiller et au réveil, lorsque j'appuie sur on, je décris le rêve et puis souvent je me rendors, je me replonge dedans et je continue de parler et de dans cette phase de demi-sommeil. Mais ouais, dans la journée ensuite qui suit, il y a beaucoup de... Enfin, il y a souvent des moments où tu regardes quelque chose en caillou ou une lumière et hop, ça te fait écho comme... Enfin, ça fait des rebonds avec ce que tu as vécu pendant la nuit.
Et tu as déjà rêvé d'une personne que tu as entendue au téléphone ? Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'on parle d'auditif là, donc tout ce qu'on peut s'imaginer à partir de voix, d'une description. Aussi bien on le dessine quoi après, mais est-ce qu'il y a des images qui sont revenues en rêve ou...
c'est difficile de rêver de son. Je crois que ça m'est jamais arrivé. C'est des formes, des sensations, des visages, mais c'est ton mental qui le fait. Là, quand tu téléphones à un inconnu, tu connais pas son visage, mais tu visualises quand même avec en fonction de la tonalité de sa voix.
Ouais.
Tu la crées, tu la dessines, son image. Tu passes ton temps à dessiner avec ton cerveau.
C'est vrai. C'est vrai que quand cette expérience, elle est que sensorielle, du coup auditif. J'ai eu des... Parce que j'ai appelé les gens depuis le centre d'appel au vernissage quand je suis venue. C'est une autre manière de découvrir les personnes, quoi. C'est quand une personne se prend au jeu, il y a quelque chose qui se développe entre vous et qui est très fort, quoi. Et c'est vrai que c'est... On s'est laissé peu souvent l'espace et le temps d'aller à la rencontre de l'autre comme ça et je sais pas de voler des instants je te connais pas je sais pas tu peux être au fond de ta cambrousse ou à la montagne ou ou deux rues à côté mais on partage quelque chose et c'était ce quelque chose ça peut durer 15 secondes 3 minutes.
Ouais, il y a un exemple rigolo qui s'est produit le jour du vernissage, le jour de l'ouverture du Télétour du monde. Il y a une personne qui visitait le Télétour du Monde qui a reçu un appel téléphonique sur son téléphone et c'était une boîte privée de compte formation professionnelle, CPF, qui lui a demandé « Allô, bonjour, est-ce que vous avez bien utilisé tous vos crédits pour vos CPF ?» Et hop, du tac au tac, elle a répliqué « Et sinon, qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre de là où vous êtes ?» Et là, ça a créé un moment de latence, un blanc. Et la personne était complètement court-circuitée et elle lui a dit « Par la fenêtre, je vois d'autres fenêtres.
» La matrice. Mais c'est fascinant. Justement, là, c'est un moment que j'aimerais bien prendre aussi pour qu'on puisse vous faire découvrir un peu le fact et un peu le salon de Diane, comme on l'appelle aussi. où les murs sont ornés de ce que les gens ont pu dessiner ou écrire après avoir s'être entretenu au téléphone depuis le centre d'appel. Donc pour vous décrire, il y a bien une image que j'aime beaucoup. C'est maintenant je le sais parce que visuellement on voit on est à Marseille et il y a un descriptif écrit. À côté du dessin, c'est beaucoup d'arbres, la rambarde de mon balcon noir, avec des bouts de peinture écaillés. C'est vrai qu'on voit les bouts de peinture écaillés. On voit des misères. Les misères plantées, il y a 3 dégradés verts et violettes, peintes vers le ciel, Un peu plus loin, un arbre dans un jardin taillé, très moche. Derrière, une maison moderne, avec du linge étendu, sur une des terrasses. Et au dessin, oui, c'est un... Bah, vous savez, c'est les cabanes entre verre et bois, carrées. Je ne peux que dire ça. Je pense que vous avez l'image. Et en effet, on voit le linge étendu aussi sur ce dessin. Qui a fait ça? C'est incroyable. On a des artistes incroyables qui passent ici.
C'est une des intervenantes. C'est Oriane Charrieux. Elle est venue un samedi avec ses crayons de couleur. Et elle a pris un témoignage qui était dans la base de données du Télétour. Elle n'a pas passé d'appel. Elle en a choisi un d'une personne qui a pris des notes pendant un appel téléphonique. Et elle l'a choisi parce qu'elle aime les plantes et elle aime particulièrement les misères.
C'est quoi les misères?
Et ça, c'est son brouillon?
Ouais, juste à droite. À gauche, c'est le brouillon. Et à droite de ce dessin au crayon de couleur, c'est une tapisserie qui a été faite par Fanny.
Mais on en parlera justement tout à l'heure parce qu'il y a une interview avec Fanny aussi, qu'on pourra l'écouter. C'est très intéressant ce qu'elle dit sur son processus de création. Et à côté de ça, tu autorises les gens à dessiner à la craie sur les murs.
Ouais, et puis à l'acrylique et à faire du collage. Les murs sont...
Ah oui, il y a des collages, en effet. Ah,
c'est... En découper des morceaux.
J'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup ce collage.
Ah, et ça, c'est Mona. Elle était à Los Angeles. C'était pendant une soirée en bivouac, au fact. On l'appelait tard dans la nuit, mais chez elle, il était 15h. Elle était ravie de répondre à notre question. Elle disait impeccable, impeccable, avec son accent américain. Elle parlait français et elle nous a décrit pendant de longues minutes. Les récits aussi dépendent de la disponibilité des gens et de leur envie d'apporter des détails.
Je suis affalée sur le canapé, la fenêtre est toute petite. Je vois juste deux arbres et le ciel gris. Les feuilles sont vertes. 19h37. Une personne de dos avec les cheveux frisés et plein d'autres gens autour. Merci, il y a des gens qui lisent beaucoup mieux cette écriture que moi. Ah, il y a un gros god avec un
bidon alcoolique.
Il y a des gens qui lisent beaucoup mieux que moi. Alors, ah là, on a beaucoup écrit aussi. Je vais vers une écriture beaucoup plus scolaire, comme on dit. Attends. J'allais prendre un bus, mais je reste dans ma cuisine. Alors, il pleut. Il y a le vélo de mon mari sous la pluie. Tant pis pour lui. Un meuble qui me sert à mettre du terreau, des débris de pots de terre cuites. Un tuyau d'arrosage, le composteur, des seaux qui servent à récupérer de l'eau de pluie. Une fougère, une pelouse synthétique. Un petit potager à quelques feuilles de menthe, de thym et de romarin m'entourent. Et énormément de bonbons. Ah. Il y a des fanioux dans les bonbons parce qu'on a fait une grosse fête la semaine dernière. Du lierre qui se faufile dans la palissade, au bois et l'arrosoir qui s'est renversé. La pluie vient de s'arrêter. J'entends le son régulier des gouttes d'eau. Il y a aussi un petit toboggan rouge et vert et quelques ballons qui traînent. Une suspension qui fait du bruit. Faite avec des... Ça, je ne sais pas.
Des quoi ?
Avec des... Ah,
des agates.
Des agates. Ah, il y a des personnes aussi en train de dessiner. Oh, bonjour. Ah, c'est magnifique. Ah, on est en train de me dessiner. C'est super. Ah oui, c'est pas fini. Mais qui êtes-vous ? Comment vous êtes arrivée là ?
Eh bien, je suis Charlotte. Et je me suis assise ici tout à l'heure et j'ai eu envie de vous dessiner en train de discuter.
Bah ouais, que des artistes ici, hein, au fact. Venez vous poser, c'est un espace assez vivant quand même. Hein. On est autour de la table de l'espace salon en train de discuter. Et voilà, une fois n'est pas coutume. L'esprit est plutôt dans la détente et le partage. Et en tout cas, si ça vous dit de venir partager ce moment avec nous, vous pouvez. Et des gens qui continuent à appeler En tout cas, je vois des gens au centre d'appel téléphonique, on ira les embêter plus tard. Ah, mais voilà, justement, on peut peut-être écouter Fanny qui nous parle de sa fabrication de tapis.
Fanny Alizon. Fanny est intervenue au Télétour du Monde le samedi 24 septembre 2022.
Allô ?
Allons à sa rencontre pour savoir ce qu'elle fait.
Du coup, tu dis que c'est une cour intérieure avec des roses et... Ah, t'as changé de vue, parce que ça a capté pas. Ok, on change de vue. Et il y a des fleurs, du coup, des plantes. Ben, super. Voilà un témoignage détaillé. Et ben là, je viens de terminer un tapis avec de la laine sur de la toile. Et j'ai appelé quelqu'un et qui m'a raconté sa fenêtre. Et du coup, j'ai tapissé l'image pendant plusieurs heures. Et là, je suis en train de la démouler. Voilà.
Ça t'a pris combien de temps ?
Je sais pas, je dirais 6-7 heures. J'utilise une petite aiguille qui s'appelle un punch needle. Et du coup, je tapisse à la main, ça fait des boucles et ça fait de l'épaisseur. Et voilà. Et là, le tapis, ça devient, c'est un peu abstrait, mais...
Tu peux nous décrire le paysage ?
C'est une vue sur une cour intérieure avec... en face, il y a une espèce de balcon et il y a un rosier. Et il y avait une espèce de cercle en briques pour faire évacuer l'eau. J'ai un peu... arrangé quand même. Je pense que ça ressemble pas tout à fait à ça dans la réalité. Et voilà, il y a une hirondelle qui passe dans le ciel.
Une quoi ?
Une hirondelle.
Et tu sais où il est, ce paysage ?
Il est dans le sud-ouest, à Saint-Martory. Et normalement, il fait gris, mais il n'y avait pas de gris. Alors, il fait nuit à la place.
Ce matin, en venant chez vous, j'ai découvert que sur le mur de l'atelier de Mayol, que j'occupe maintenant, il y a des petits voyous qui ont fait des graffitis ridicules. Ça, c'est leur liberté pour eux. Ça, cette liberté est insupportable.
Brother is watching porn. Ces jours où je tuerais pour être dans la norme. Ces jours où je tuerais pour que tu me réconfortes. La mort a une chicha devant la porte. Pieds nus sur scène comme Eugène Mona. Sous le regard des Mona Lisa. Mon lifestyle des plus démoniaques. Avant la retraite monacale. Les prochains téléphones sont waterproof. Réponds-moi sous la douche. L'horreur du siècle au coin de la bouche. Je m'auto-interview quand j'arrête de t'aimer. C'est une fleur qui grandit pas quand t'arrêtes de m'aimer. On évacue un squat malgré ça.
Optimiste, ouais je suis optimiste. Optimiste, je reste optimiste. Optimiste, ouais je suis optimiste. Optimiste, je reste optimiste.
Bois pas pour le plaisir, seulement pour me détruire. De jolis sentiments m'ont fait frôler le pire. Des appels en absence provenant de mon avenir m'ont fait sentir l'urgence au plus vite réagir.
La vie c'est violent quand je vois rouge. Parle mal à celle qui m'a changé les couches. Je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'écoute. Ton Éden me dégoûte. Où je pose le regard, les flammes se propagent. Où je pose le regard, les flammes se propagent. C'est peut-être les lentilles de contact qui me font croire que tout crame. J'ai déjà sauté le pire, que tu sois seul à survivre. T'écrives un livre sur le trauma. Mais plus personne n'existe, le livre se vend pas. Franchement c'est dommage d'exposer ses toiles dans les caves. Dans le doute je reste optimiste et délicat. Mon texte aux étoiles.
Optimiste, ouais je suis optimiste. Optimiste, je reste optimiste. Optimiste, ouais je suis optimiste. Optimiste, je reste optimiste.
J'ai souhaité le meilleur sans bouger de ma chaise. J'ai parlé de mes rêves, ça a mis un malaise. Ma vie est un casse-tête arbitraire et sans règle. Souvent la peur de me perdre, la pirate en terre glaise.
parce que moi je n'aime que le cinéma noir et blanc, mais bien sûr je vais voir les films de Clint Eastwood qui sont formidables, mais c'est le noir et blanc pour moi le cinéma. Moi je déteste la musique que l'on met dans les films. Je trouve que le son c'est très très important. J'aime le cinéma vrai.
Tienne, on est avec quelqu'un. Et voilà, est-ce que tu peux te présenter invité mystère?
Invité mystère, merci. Bah, je suis très honoré de participer à cette fantastique proposition de Diane dans cette merveilleuse émission de L'Oréal. Je suis Stéphane de Goutin.
Stéphane, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je fais des propositions artistiques. Je travaille très souvent avec une autre artiste qui s'appelle Gonola Wagon, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui te salue. Et on fait des propositions qui sont... Alors, au départ, on faisait beaucoup de voyages. Et donc, c'est un peu là les centres d'intérêt qui se sont rencontrés avec Diane. On faisait beaucoup de... Il y a une quinzaine d'années, on avait fait un collectif qui s'appelait No Go Voyage avec Gonola et aussi une autre personne qui s'appelait Alex Knapp, enfin qui s'appelle toujours Alex Knapp, mais qui est parti dans d'autres pays. Et on faisait des propositions pour voyager dans le proche. C'est-à-dire on faisait beaucoup de dispositifs de voyage. Par exemple, on a fait une expérience où on restait absolument immobile dans des lieux de très grands passages, comme le Forum des Halles. On a fait des expériences s'immobiliser dans un lieu pour en ressentir des éléments précis. On avait fait aussi des voyages... On avait hypnotisé un quart de tourisme, par exemple, avec les occupants à l'intérieur pour explorer les liens entre tourisme et hypnose. On avait fait des tours en bus pendant une journée complète pour faire le tour de la banlieue parisienne, pour explorer l'espace du bus. Voilà, des expériences comme ça, de dispositifs de voyage, à chaque fois dans des destinations très très proches. On habitait Paris, donc des destinations très très proches. Ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Après, on a fait beaucoup, beaucoup d'autres projets de films, d'installations, etc., mais qui sont toujours sur des sujets très liés à des sujets de société.
Ouais, tu m'avais amené aussi à une conférence de Philippe Vassé, c'était au musée de la chasse à Paris. Oui. Et à l'époque, moi, je faisais des explorations satellitaires. Et lui, il parlait de ses randonnées sur la ligne de frontière, des images de Google qui ont été prises... à des temporalités différentes. Donc, tu as des endroits sur Terre où c'est un patchwork d'images avec une ligne qui fait le cadre, le tour de chaque photo. Et c'est cette ligne-là, un peu
ligne
fou,
du temps, quoi.
La jonction.
qui fait la jonction entre deux époques, puisque Google n'était pas passé par là, on va dire, à un certain temps, et puis est passé par là un autre, c'est ça?
C'est ça.
C'était surtout en France. Oui, il a exploré quelques zones de transition floue entre des photos. C'était marrant. Puis Philippe Vassé aussi a fait avant un livre blanc où il explorait les zones qui n'étaient pas cartographiées dans la banlieue parisienne. Les zones blanches qui ne sont pas sur les cartes.
Enfin, ce qui te rapproche aussi de Diane, c'est cette considération de l'espace et de l'espace qui t'environne, quoi. Ça a marqué très très vite ta manière de créer ou pas?
Ouais, moi je viens plutôt du milieu de l'architecture et de l'urbanisme, donc c'est un peu inscrit dans mes gènes, on va dire. Donc, voilà. Mais c'est vrai que, j'ai jamais vraiment pratiqué l'architecture et l'urbanisme. Par contre, j'ai beaucoup beaucoup pratiqué l'exploration, mais pas du tout dans le sens urbex ou ce genre de choses, vraiment l'exploration du banal, quoi. Vraiment le quotidien, le banal, tout ce qui est ordinaire, à quoi on prête pas attention. Et pas non plus dans une veine anthropologique, tout mon respect bien sûr pour les anthropologues, mais vraiment dans un truc un peu plus, je sais pas comment dire ça, mais qui croisait assez bien les recherches de Diane. Ouais.
Et comment est-ce que tu as pu, parce que te dire à un moment, il y a Diane qui est en train de se poser des questions, enfin, toi aussi tu as fait pas mal de travaux sur bouger dans l'espace pour les gens. C'est Diane goes for you. Et comment en fait entretenir un rapport d'échange comme ça sur des pratiques finalement qui sont assez proches, en tout cas une sensibilité qui est assez proche, et comment la nourrir ensemble, quoi, sans faire la même chose finalement?
Je pense qu'on fait pas du tout la même chose, mais tous les deux par contre, enfin tous les deux, tous les trois ou tous les quatre ou tous les cinq, si on inclut d'autres personnes, enfin on est beaucoup sur la création de dispositifs. Diane Goes For You, c'est un dispositif qui permet justement d'alimenter. Donc tu demandais à des gens, j'explique un peu, donc tu demandais à des gens de te repérer des endroits bizarres sur Google Maps. Et puis après, toi, tu allais dans cet endroit pour voir ce qui se passait. Donc, comme c'était ouvert à tout le monde, moi, je t'avais suggéré 2-3 endroits, tu avais fait des visites, etc. Et avec Gonola, on faisait beaucoup de dispositifs aussi. Alors, par exemple, ce tour en bus qu'on avait fait, qui était une exploration de la banlieue parisienne sans jamais rentrer à l'intérieur de Paris, mais uniquement en restant que dans des bus, sans jamais descendre du bus. Tu descends d'un bus, tu montes dans un autre bus, etc. On a fait une carte. Et cette carte, après, on l'a... Ça dure 8 heures, il faut être en forme. Mais cette carte, après, on l'a donnée à des gens, puis on leur demandait de faire le tour, et puis après, on les recueillait à la sortie du bus, et on leur demandait soit leurs impressions, soit... Voilà. Et bon, pas mal de gens ont participé et passé vraiment 8 heures dans le bus. Voilà, ils ont passé un samedi complet à faire ça. Enfin, pas mal de gens ont fait ça. Et ça a donné des voyages extrêmement différents, parce que comme c'est un protocole de voyage, entre guillemets, chacun va l'interpréter d'une manière totalement différente. Pareil pour le coup de rester immobile au Forum des Halles. On avait donné un petit protocole comme ça, un peu léger. On disait aux gens, voilà, vous restez 3 heures sans bouger dans un endroit précis du Forum des Halles à Paris. Les gens le faisaient. Bon, après, ils ne sont pas obligés, hein, c'est s'ils ont envie. Et puis après, ils en tiraient un petit texte et on a fait un livre qui recueillait ces textes. Bon, à l'époque, je ne te connaissais pas, sinon je t'aurais proposé. Mais c'était vraiment c'était dans les années 2008, 2007-2008. Donc à chaque fois, il y avait une sorte de participation du public qui était assez différente des projets que tu fais, mais c'est vraiment le même esprit, on va dire.
C'est ça qui est marrant, parce que finalement, cette expo, on le voit très bien dans vos travaux à tous les deux, c'est l'interdépendance au public, enfin aux personnes en fait qui créent les œuvres avec vous. Et du coup, est-ce que le protocole fait tout? Parce que quelquefois, on a beau construire un protocole, on n'arrive pas forcément à inviter les gens à créer avec nous.
Bah ici, si je puis me permettre, ce qui marche bien aussi, c'est l'expo. C'est-à-dire que l'expo, là on le voit, tout le monde est en train de faire des trucs... comme ils veulent, toutes sortes de choses, il y en a qui dessinent, d'autres qui écoutent, d'autres qui font, voilà, d'autres qui font l'émission de radio. Voilà, donc l'expo aussi a un protocole d'une certaine manière. Et moi, je pense que si le protocole est bien pensé, ça fonctionne, quoi. Et après, évidemment, c'est la variabilité humaine fait que ça devient intéressant. Mais ouais, s'il y a un truc, le coup de la fenêtre, c'est malin, quoi. Tu as une question toute simple, mais qui déclenche 10 000 choses différentes. Et c'est vrai qu'après, tu empiles d'autres choses, comme les dessins, etc., etc. Donc, ouais, c'est hyper important.
Ça donne lieu aussi à des amis, à toi, qui ont carrément composé des chansons, quoi. Ça, c'est vrai que ce déroulé-là, aussi, est intéressant. Et il y a quelque chose qui m'a interrogée dans vos travaux, à tous les deux. C'est aussi cette admiration pour quelque chose... de l'ordre du banal, quoi. La poésie dans la banalité. Et comment est-ce que vous êtes des créateurs, créatrices qui en tout cas revendiquent la banalité pour les autres, enfin, dans le sens d'émerveiller les autres, en les invitant à participer aussi, quoi, parce que...
Puis surtout, ça peut être pris à plein de niveaux... et de sens différents. Hein. Cette question, elle pourrait être posée par un enfant autant que par une personne plus âgée. On peut le prendre de 1000 façons, de manière très littérale. Je te décris exactement ce qui se situe dans l'angle gauche, tout en bas du cadre de ma fenêtre, ou bien une fenêtre plus poétique ou carrément philosophique.
Les gens, ils attendent. Est-ce que vous sentez que les gens attendent de vous, quelquefois, d'avoir une posture de l'artiste, si ça existe, hein ?
Oui. Moi, clairement, il y a un archétype de l'artiste dans lequel on doit rentrer.
C'est quoi, par exemple ?
Les gens imaginent plein de choses derrière le mot artiste. Et c'est vrai que moi, personnellement, ça me pose un peu question, dans le sens où le mot artiste m'a toujours un peu gêné. Enfin, je ne me considère pas forcément comme un artiste. Et peut-être plutôt comme un... Enfin, maintenant, peut-être plutôt un chercheur en sciences humaines et sociales, mais qui utiliserait des moyens plutôt artistiques. Enfin, de plus en plus. là, du coup, le projet qu'on est en train de monter avec Gonola, qui s'appelle Dark Systems Tours, c'est carrément un projet qui va explorer donc tout ce qu'on appelle les dark systems. Alors l'expression est un peu bizarre, c'est pas un truc de science-fiction, c'est vraiment tout ce qui est les infrastructures cachées dans la ville, que ce soit les data centers, les dark kitchens, tout ce qui est invisibilisé.
Data center, tu peux expliquer pour les gens qui ne sauraient pas?
Tous les serveurs informatiques qui conservent les données de ce qu'on met sur Internet, etc. Les dark kitchens, c'est tous ces centres de logistique dans lesquels sont conservées les choses qui vont être livrées sur Getir, Flink, tous ces services de livraison hyper rapide. Enfin, on s'intéresse beaucoup avec Gonola, avec toute cette infrastructure qui est où les entrepôts de livraison Amazon ou ce genre de choses, ces infrastructures gigantesques qui servent grosso modo pour aller vite le capitalisme extractiviste et qui sont hyper importantes dans l'organisation de la société, mais qui sont en général invisibilisées, auxquelles on ne s'intéresse pas, parce que là, on n'est plus dans le banal, on est dans le chiant, quoi, carrément.
Oui, surtout qu'on ne veut pas voir, qu'on veut pas visiter. c'est pas vraiment l'éclate d'aller faire ses courses directement à l'entrepôt d'Amazon.
Oui. Oui, et puis on veut pas le voir parce qu'on veut être dans l'illusion qu'on clique sur un truc, les choses arrivent et puis il se passe rien entre les deux, alors qu'en fait, une grande partie de ce qui fait la société est en train de dériver là-dedans. Et donc là, on est en train d'organiser des tours, c'est-à-dire des visites touristiques de ces espaces en invitant des artistes. Alors c'est un projet en train de démarrer, donc on peut pas le décrire encore, mais on va inviter des artistes à imaginer des tours. Alors par exemple, comme Diane s'intéresse beaucoup aux gens qui travaillent dans les call centers et qui appellent pour vendre des choses, une sorte de renversement de la...
Je ne sais pas
si jamais Diane a une idée d'une performance ou d'une visite qui inclut des gens qui appellent dans les call centers. Enfin, ça pourrait être un exemple. Sinon, il y a des artistes qui déjà proposent par exemple, le collectif RYBN qui propose des visites de paradis fiscaux. Alors, ils vont dans des... on a des paradis fiscaux qui peuvent être au Luxembourg, à La Défense, pas forcément dans des îles éloignées, mais ça peut être très proche de nous. Ils ont une application, puis on suit à La Défense, on va visiter les immeubles. Alors, c'est des portes d'entrée en général très anonymes, mais où il y aurait derrière des systèmes de blanchiment d'argent, etc. Enfin, voilà, c'est des exemples. Il y a aussi un artiste qui propose des visites d'infrastructures de câbles Internet, etc., où on fait le trajet des câbles Internet. Et donc, voilà, on va faire une sorte de entre guillemets curatoria, pour prendre un mot qui vient du champ de l'art, de visite de ce genre-là qui vont du coup explorer des aspects cachés de la société actuelle, quoi.
Moi, c'est dans le travail social avec les enfants, avec les jeunes, avec les adultes, où il y a cette figure du super-héros qui n'existe pas, enfin, qui est en fait, j'ai l'impression qu'il y a la figure de l'artiste qui est quand même très, très mis en lumière et tout est fait, les espaces de galerie, les white cubes, pour rendre le produit artistique spectaculaire. Mais c'est des personnes comme vous et moi. Il y a l'idée que, en fait, quand on se concentre sur des petites choses et qu'on s'émerveille sur des cailloux dans la rue, en fait, c'est super, c'est à la portée de tous. Il y a moyen de se procurer du bien en écrivant des rêves le matin, mais on pourrait... Les rêves, souvent, les gens ils font pas attention parce qu'ils pensent que c'est pas intéressant. Mais quand on se dit, ah, en fait, ça... Plus j'écris mes rêves, plus je me rends compte que... je sais pas, je me sens plus créative. Ou je sens que ça m'alimente. Ou toutes ces petites choses du quotidien, si tu leur donnes de l'importance, alors j'ai l'impression que ça met dans une posture plus...
Super intéressant. En tout cas, mais ça me traverse souvent, ça. C'est quelquefois, l'artiste, il se sent aussi quelquefois très peu utile. Il y a la notion utilitaire. Et à quoi est-ce que je sers concrètement si on m'ampute les mains ou la tête? Et du coup, moi, ça m'avait pas mal, et ça me tracasse encore, hein, quelquefois. Dans mes propres processus de création. et ma propre vision de voir mon rôle quoi dans la société. Est-ce que d'arriver vers quelque chose comme tu dis, je me considère pas autant artiste, mais plutôt m'intéressant aux sciences sociales, sciences humaines, et en ayant une application artistique. Est-ce que c'est des tentatives de réponse d'utilité ?
Oui, oui. Enfin, c'est une question en tout cas qui est importante. Après, je ne sais pas si j'ai une réponse définitive à ta question, mais je pense que c'est une question hyper importante. Et j'ai peut-être que, alors pour le faire peut-être de manière un peu caricaturale, j'ai l'impression que l'artiste s'est laissé prendre au piège de cette inutilité. Et peut-être que là, il faudrait remonter à l'histoire de l'art du XXe siècle et l'histoire des avant-gardes qui, d'une certaine manière, ont radicalisé le statut de l'artiste dans une posture de produire des choses qui, effectivement, vont te mettre dans une situation d'artiste en dehors de la société, mais qui, en fait, et grosso modo, va produire des choses qui sont 99% sans intérêt et inutiles. Hein, pour le dire, je caricature énormément mon point de vue sur le monde de l'art, excusez-moi, mais qui, du coup, vont... Peut-être que l'artiste s'est laissé prendre au piège à une vision des choses qui, en fait, l'éloigne complètement du reste du monde et le place dans une petite tour d'ivoire conceptuelle qui, à mon avis, n'est pas... Enfin, en tout cas, pour moi, n'est pas... Après, je n'ai rien contre les postures. En tout cas, ce n'est pas la posture que moi, je veux défendre.
Ce que je trouve admirable, c'est qu'il y a aussi une pluralité de manières de vivre son processus de création, son statut aussi. Et moi, ça m'a... Ce que tu fais, Diane, moi, ça m'a beaucoup... Ils sont en train de faire tout à fait autre chose. Hein. Attention, la comparaison, le prêtre-ouvrier. Pourquoi est-ce qu'on parlerait des prêtres-ouvriers ici ? Mais il y a cette idée à la fois de vocation, mais de personnes qui en tout cas, avaient à cœur de quand même travailler et de continuer les tâches dans les usines et d'être dans quelque chose, un rapport assez simple, quoi, que le corps aussi, en tout cas, souffre.
Tu es prêtre ouvrier, Diane.
Mais quelquefois, il y a quelque chose qui me touche parce que je rencontre de plus en plus de jeunes artistes qui essayent, d'être... que le corps aussi vive, que le corps vive entièrement une expérience collective de société. Et que ça s'exprime à travers l'art aussi, mais à travers d'autres engagements. Qui du coup sont plus du tout hiérarchisés, tu vois. Toi par exemple, quand tu décrivais, tu t'es attends, mais aussi que je fais de la pizza. et c'est ce que j'ai trouvé assez étonnant. Je sais pas toi comment tu te positionnes un peu avec cette multiplicité d'identités.
C'est que je suis de grande taille et que je me cogne souvent contre le cadre de la porte quand je passe les espaces. Ça part peut-être d'une impression d'être à l'étroit dans une case et donc d'aller explorer d'autres cases pour voir ce qui s'y passe et puis avoir pris l'habitude d'avoir un pied dans chaque case et puis ça, c'était problématique dans les carnets de notes. On me disait que j'étais éparpillée et que c'était plutôt un défaut qu'une qualité de pas suivre une direction, une seule ligne droite. Mais ça participe à un équilibre, quoi. C'est quand même fréquenter différents milieux, groupes humains, pour sentir un équilibre, quoi.
Est-ce que toi, tu as des questions, Diane, pour Stéphane ? Des questions à poser à Stéphane ? Oui, parce que tu as... Ah bah oui ! Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience ?
Je croyais que tu avais une moyen de raconter nos rêves de la nuit.
ça peut faire partie de l'expérience.
Moi, j'ai fait un rêve extraordinaire. Pas cette nuit, je triche un petit peu. C'était pas la nuit que j'ai passée au fac, mais la nuit d'avant. J'ai fait un rêve assez dingue. Où j'avais une amie qui était sous l'emprise d'une émission de télé-réalité. Donc elle était chez elle et il y avait une émission de télé-réalité qui la mettait complètement sous emprise. Et quand je la voyais, elle était en train de cuisiner des plats extraordinaires dans une vaisselle en argent hyper baroque, dans un intérieur hyper baroque. Elle cuisine jamais en vrai. Et en fait, le médium de l'émission de télé-réalité, c'était un aspirateur automatique robot qui se promenait chez elle et qui l'hypnotisait, la gardait sous emprise et donc manifestement lui faisait faire des choses bizarres comme faire la cuisine, mais aussi son chien, elle n'a pas de chien en vrai, mais son chien dans le rêve était déguisé en éléphant avec un costume d'éléphant. Enfin, il y avait un environnement très bizarre comme ça. Et pour la sauver, pour tenter de la sauver, j'arrivais et je prenais l'aspirateur automatique et je voulais le jeter dans la rue par terre pour l'écraser au sol. Et en fait, par terre, au sol, il y avait plein de monde qui passait dans la rue. Donc j'essayais de dire, poussez-vous, je vais jeter un aspirateur automatique. Puis les gens se poussaient. Et là, je jetais l'aspirateur automatique. Il explosait en 1000 morceaux. Mais il contenait un gaz toxique qui se répandait à travers la foule et qui... Après, là, je me suis réveillé, je me rappelle. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Donc je ne sais pas si j'ai sauvé cet ami. Je ne sais pas si la foule a été empoisonnée, mais c'était un rêve, intense.
Et la bestiole décrite dans le rêve de Stéphane m'a fait penser à une autre bête à laquelle j'ai rêvé il y a 4 jours, non, le 4 octobre. C'est cette bête-là que j'ai dessinée. Ça ressemble à une sorte de... Vous savez, les chiens qui ont des poils longs, qui ont des dreadlocks blanches. Et t'as des photos de ces chiens, et quand elles sautent, on dirait des serpillères.
C'est terrifiant ou pas? Non, toi, t'es complètement terrifiant quand même.
J'étais dans un intérieur chic, dans un salon. Et elle se déplaçait comme une araignée géante. Ouais, c'était à la fois ridicule et très drôle. Et complètement terrifiant. Elle sautait. Mais du coup, j'étais perchée sur un petit meuble et je la montrais du doigt en rigolant, mais quand même, j'essaie de me tenir un peu à l'écart.
Et d'ailleurs, tiens, on parle de rêve. Pourquoi dormir au fact, du coup? Ça aussi, ça fait partie d'une proposition particulière.
C'était pour proposer donc à Stéphane la formule immersive au sein du dispositif.
Bed and breakfast.
Bah, parce que ici, c'est pensé comme un peu l'art en circuit court, quoi. T'assistes à toutes les étapes de la fabrication d'une œuvre artistique. Et une des étapes qui me semble importante, c'est la digestion, le recul. Donc, que ce soit dans des journaux de bord ou bien la nuit, ça fait partie du circuit, quoi. Et c'était nécessaire de le montrer. Et de l'inclure dans le dispositif.
La première fois que je suis arrivée ici, bon, j'avais mes chaussures. Deuxième fois, j'ai enlevé mes chaussures. Troisième fois, je me promène dans l'espace sans chaussures. Et j'ai l'impression que les gens se sentent assez bien. Vous avez l'air détendu, en tout cas. Est-ce que vous avez des questions, vous, à poser à Diane et à Stéphane?
Je pense à deux choses, en fait. Mais c'est plus des remarques. Tout à l'heure, vous parliez des gens qui voyageaient. Enfin... Il y a quand même ce truc du voyage immobile. Et je n'ai pas encore lu ce livre, mais Édouard Glissant a écrit un livre sur les îles de Rapa Nui, où en fait, lui, il n'était plus en capacité physique, je crois, d'aller voyager. Et du coup, c'est sa femme, Sylvie, qui est allée sur l'île de Pâques et qui a voyagé pour son mari. Mais c'est son mari qui a écrit le livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre, ou pas.
Non, je ne l'ai pas lu. Mais il y a le livre de Pierre Bayard, Comment parler des lieux où on n'a pas été.
Ah oui, c'est la documentaliste de l'école d'architecture de Rennes qui m'avait dit de lire ces livres.
Mais il a aussi écrit Comment parler des livres qu'on n'a pas lus, donc qui sont deux excellents livres.
Il y a un monsieur qui s'appelle Xavier Demestre, qui au 17e avait écrit, au 16e, au 18e, avait écrit Un voyage autour de ma chambre. Et il avait organisé toute une expédition de 42 jours, il me semble, dans sa chambre. Alors, il avait un serviteur qui lui livrait ses plats à sa porte et qui lui vidait son pot un peu tous les jours. Et il voyageait de sa lampe à son lit et de son lit à sa fenêtre. Et il racontait toutes les pensées, les souvenirs et les choses qu'il voyait. Il en a fait un petit livre, mais en fait... La première expérimentation du télétour qui s'appelait pas télétour, c'était lors d'une exposition collective qui s'appelait Un voyage autour de ma chambre. Et c'était dans un centre culturel à Anvers, Ed Boss, le bois en flamand. Et j'avais posé un bureau avec une chaise et puis les visiteurs et les visiteuses me donnaient des numéros que j'appelais en direct. Et ça a duré une semaine. J'y allais aux horaires de bureau de 10h à 17h. Et puis je collectais, j'appelais, je collais les dessins derrière au fur et à mesure.
D'accord. Voilà, tout est lié. Tout est lié. Mais voilà, moi je vous remercie. Mine de rien, on a décidé de consacrer cet après-midi 2 heures de carte blanche à un peu échanger avec ceux et celles qui le souhaitaient, écouter des créations autour de l'exposition et de cette démarche. La deuxième heure arrive bientôt à terme. C'est incroyable, ça passe vite. Donc moi, je te remercie énormément, Diane, de l'invitation. Quelquefois, c'est un petit peu fait dans l'improvisation totale, mais j'aime bien l'énergie qu'on a mis dans ça. Merci. Et merci Stéphane. Avant de se quitter et de faire une liste de remerciements, Diane, tu pourras la faire. Enfin, je voulais écouter une dernière création sonore que j'aimais beaucoup. Elle s'appelle Tel Aviv.
C'est de là que viennent les témoignages de 2014 qui font partie des archives sonores.
En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Moi, il m'a beaucoup, beaucoup touché ce témoignage. Bonne écoute.
J'habite dans la rue principale de Tel Aviv. À 3 mètres de moi, il y a une machine à air conditionné. Un cube blanc avec des tubes fixé à la façade de l'immeuble d'en face. Cet immeuble occupe environ 70% de mon champ de vision. Je ne vous décris pas une vue frontale. La partie de gauche du bâtiment d'en face est légèrement plus haute que celle de droite. Ici, les immeubles sont de style Bauhaus. L'architecture est composée de plomb, comme les petits soldats de plomb. Ils ne sont pas très hauts, 3 mètres, mais ils sont plutôt larges. Les fenêtres sont hautes et étroites. Au troisième étage, deux fenêtres sont éclairées. Chaque étage a son propre balcon. Mon balcon à moi est rempli de plantes. Je ne peux pas voir le haut de l'immeuble d'en face, car il est caché par le balcon de mon voisin du dessus. Je ne peux pas voir le sol non plus, car il est caché par une rangée d'arbres. Je ne peux pas voir la ligne d'horizon, car il fait sombre. Le coucher du soleil a eu lieu il y a 40 minutes.
C'était par la fenêtre de Élie en Israël, interprétée par Émilie Jokiel.
C'est la fin et je remercie vraiment Diane de cette invitation. Je tiens à remercier Nat à la technique. C'est lui qui faisait les transitions. Je tenais à remercier Simon, qui est un autre collègue aussi, toute l'équipe de la R22. Je remercie La Guerrière, commissaire de l'exposition, le FACT Centre Culturel Richard, de nous avoir reçus. Merci en tout cas, les guerrières, de nous avoir aidés à préparer cette exposition, mais aussi de vraiment contribuer à la faire vivre de vos mains aussi. Et voilà, je remercie Margot pour son exploration toute cette semaine et de son texte et de son partage. Je remercie Emeline aussi d'avoir ouvert et tapé aux portes pour donner un peu un aperçu de ce qu'il y a comme personne sur cette dalle du Colombier.
Merci Lauriane, merci Nathan pour ce plateau radiophonique. Je viens de mettre un bonbon dans ma bouche, je vais l'enlever. Et puis, franchement, non, l'équipe du FACT, elle a été hyper aidante, hyper accueillante. C'est pas rien d'habiter sur les lieux de l'exposition. On cohabite et on a appris à cohabiter. Ils ont été hyper flex. Pareil, la guerrière, toujours présente et là quoi.
un peu le participant, tous ceux qui sont anonymes, tous ceux qui sont passés, tous ceux qui... Ah oui, David Réolier, il a fabriqué une fenêtre mobile qui est exposée dehors. Première contribution au Télétour du Monde. Et on peut la balader. Donc ça nous arrive de promener la fenêtre et elle est essentielle à cette expérience.
Merci à toutes les personnes qui ont aussi rempli le carnet et qui continuent de le remplir, notre répertoire du centre d'appel, et ceux qui ont donné le numéro de leurs amis. Et je vous remercie énormément. Toutes les personnes qui passent et qui n'hésitent pas à faire un tour, laisser un dessin, laisser une empreinte. Voilà. Pour les répondeurs longs et chiants, pour les plus imaginatifs, merci à tous.